Sans réserve, le balado.
J'ai une relation très forte avec la langue inuktitut, chose qui me touche à beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents niveaux. J'ai toujours eu un appât pour la couture. Ma grand-mère était très, très, très connue pour ses mitaines. C'est elle qui m'a appris, elle puis ma mère. Grâce à eux, je suis capable d'habiller ma famille pour les froids extrêmes. J'adore travailler pour CNN parce que je vis dans mon monde, dans ma bulle artistique à Akilivo.
Aujourd'hui, on passe un moment avec Julie Grenier.
J'aimerais tellement ça, voir que la personne qui va me remplacer éventuellement soit une personne qui a été capable de développer un intérêt puis de faire une aptitude, quelqu'un qui est inuit, qui prend la relève. Je viens du Nord, je viens de Coudjoie, mais je suis née à Québec parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Mes parents, ils ont déménagé là quand ma mère était enceinte. Mais j'avais pas un an encore quand on est retourné à Coudjouac. Pour moi, je considère Coudjouac comme ma ville natale. Dans mon enfance, des moments marquants. Puis c'est la même chose pour mes frères. Ben c'est toujours autour du camping, d'aller faire des sorties, de la pêche, passer du temps avec ma grand-mère, les fins de semaine que je partais seulement avec mes grands-parents. C'est toujours des moments qui tournent autour de la culture, de la tradition, de la vie extérieure. Ma grand-mère, elle a toujours été une personne importante dans ma vie. Malheureusement, elle nous a quittés beaucoup trop tôt. Mais ça a toujours été quelqu'un qui a été super important. C'est elle qui m'a appris, elle puis ma mère, dans le fond. Puis j'ai une relation très, très proche avec ma mère. C'est eux qui m'ont appris comment faire la couture.
Ma grand-mère était très connue pour ses mitaines. Elle faisait des mitaines et des camiques de façon traditionnelle. Mâcher les peaux, puis faire la couture, des camiques imperméables, puis elle était vraiment renommée pour ça. C'est elle qui nous habillait, ma mère aussi. Fait que j'ai toujours été entourée de la couture. Ma mère, depuis toujours, a fait de la couture. Avant ma naissance, quand ma mère était aux écoles résidentielles, mais ma grand-mère l'envoyait toujours avec un nouveau parka, puis c'était toujours, tu sais, ce qu'on voit maintenant dans l'industrie des tendances nouvelles, mais c'est ma mère qui sortait avec ces tendances nouvelles parce que ma grand-mère l'habillait comme ça. Fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a suivie depuis ma naissance. Puis c'est comme un peu moi qui ai pris la relève aussi, puis quand ma grand-mère est décédée, mais j'ai eu beaucoup de ses patrons, j'ai eu ses vieilles machines à coudre parce que c'est quelque chose que j'ai pu continuer à faire. Puis c'est moi maintenant qui fais les mitaines pour tout le monde dans la famille, dans le fond. Fait que j'ai pu emporter la tradition un peu de ce que ma grand-mère faisait. Puis ma mère, fait que j'ai pu en prendre des deux côtés. Puis c'est quelque chose que je partage avec ma mère encore à chaque fois qu'on peut. On voyage avec nos sacs de couture, puis on est assis ensemble, puis on fait de la couture. Que ce soit du perlage, que ce soit de la couture, que peu importe, en autant que ce soit artistique, puis avec nos mains, c'est quelque chose qu'on fait toujours ensemble.
Dans la maison, c'est ça, je fais beaucoup de mon perlage, je fais beaucoup de tricot. Puis j'ai commencé à aussi faire des designs de linge. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais là, j'ai le temps. Fait que je me suis équipée avec des choses plus à la maison. Je fais beaucoup de sèche. Fait que j'adore ça. Pour moi, c'est vraiment, je suis dans mon monde, je rentre dans ma bulle, puis c'est fantastique. J'ai toujours amené mes choses avec moi. Même quand je voyage dans l'avion, je vais ouvrir mon petit coffre de perlage, je vais sortir mon tricot ou ma couture. Les choses avec lesquelles je peux voyager, mais j'ai toujours quelque chose dans mes mains. Puis ça, c'est quelque chose que là, j'ai pu pas juste continuer, mais même à élargir. J'ai pu un peu ouvrir mon répertoire de choses à créer, puis m'ouvrir l'esprit un peu. Je parle l'inuktitut un peu, je le comprends beaucoup mieux que je le parle. Dans le fond, moi, quand j'ai grandi à Coudjouac, l'éducation était donnée en langue française ou anglaise. Il n'y avait pas de langue inuktitut apprise à l'école. J'ai fait des cours un tout petit peu, mais mes parents sont, eux autres, toujours concentrés. sur le français puis l'anglais à la maison. Eux autres s'étaient toujours dit que j'aurais l'opportunité d'apprendre l'Inuktitut à l'extérieur avec mes amis. Mais à cause qu'on était à l'école en français puis en anglais, c'était pas le cas. Puis on est un gros groupe de ma génération qui ont de la difficulté avec la langue Inuktitut. Maintenant, je demeure plus à Koudjouak. Je travaille pour une société qui utilise radio et télévision en Inuktitut seulement. C'est, pour moi, c'est tellement important. Puis je pense que le fait que j'ai une grosse lacune à ce niveau-là rend que je fais professionnellement encore plus important. On se concentre beaucoup, beaucoup sur la programmation jeunesse, puis on fait des gros efforts pour promouvoir la langue, mais la bonne langue, parce qu'il y a beaucoup de slang maintenant, beaucoup de mauvaise prononciation. Fait qu'on travaille beaucoup à vraiment revitaliser la langue bien parlée. C'est très, très, très difficile d'avoir des cours d'Inuktitut. Même comme Inuit. Fait que on rencontre beaucoup d'enjeux quand ça vient à la langue. Des fois, je me sens comme si je dois me débattre contre les politiciens du Nord à cause que je parle pas fluemment l'Inuktitut. Je me sens souvent comme si je me fais repousser, encore moins acceptée que les non-Inuits. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qu'on travaille. C'est quelque chose que je le vis à tous les jours, comme je disais, dans ma vie professionnelle. Je le vis à tous les jours avec mes enfants aussi. Puis c'est quelque chose que j'ai dû travailler à accepter. Ça fait partie de moi. Puis au lieu de le voir comme un négatif, on travaille toujours pour essayer de créer du positif. La Voix du Nord a commencé avec la radio seulement et puis éventuellement amener la télé. La radio se faisait diffuser à travers CBC North et puis maintenant ben, on a notre propre radio régionale, on a notre propre station qui est diffusée dans tous les villages puis on met notre station sur le site web aussi. Puis pour la télé, ben là, on a commencé à amener notre programmation sur notre site web via YouTube pour avoir plus d'accessibilité. On est un organisme charitable à but non lucratif. Le financement, c'est une grosse, grosse, grosse problématique. On a des grosses coupures. Les enveloppes budgétaires qu'on utilise, c'est au fédéral. Au Québec, toutes les enveloppes de financement sont pour la diffusion francophone. Si on n'a aucune diffusion francophone, on n'a pas accès à aucune de ces enveloppes financières-là. Ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles, c'est qu'on se fie directement au fédéral et au régional. Fait que ça, c'est probablement les plus gros enjeux. D'année en année, on évalue toujours comment on va réussir, comment on peut continuer. Mais c'est pas perdu. Il y a un but à ce qu'on fait, puis c'est tellement bien reçu par les communautés. Puis on essaie de faire de la programmation maintenant qui est facilement partageable avec les médias sociaux. Donc là, on vient juste d'essayer un nouveau programme les samedis soirs. Parce que les jeunes, ils nous disent toujours, tu sais, on a pas assez de programmation pour nous, on veut entendre de la musique, on veut ci, on veut ça, pas de problème. Fait que là, on a trouvé un DJ à Montréal qui nous fait 3 heures de musique continue les samedis soirs. Fait qu'on essaie vraiment de créer des programmes, de créer des choses en écoutant la population. Puis il y a des choses qui se font très facilement avec un budget beaucoup plus restreint. Il y a d'autres choses, par exemple, que c'est beaucoup plus difficile. Je tiens vraiment beaucoup à cœur à TMI, puis j'ai vraiment mis des racines là, puis beaucoup de nos employés, ça fait des années et des années qu'ils sont avec nous. C'est la genre de place où que tout le monde devient une famille, puis on développe. On développe ensemble, on grandit ensemble, puis les gens ont tendance à rester pendant longtemps. Fait que j'ai jamais vraiment pensé dans 5 ans ou dans 10 ans que je vais faire quelque chose d'autre. Dans le fond, j'aimerais tellement ça avoir des studios dans le Nord, développer un intérêt dans les jeunes. On a beaucoup, beaucoup de personnes âgées, ce qui est super, surtout au niveau de la radio, mais j'aimerais tellement ça pouvoir encourager les jeunes à s'embarquer dans le domaine de la production radio et télévision. C'est tellement un beau domaine, c'est tellement important, puis avec ça, TMR pourrait devenir tellement plus gros que ce que c'est. Puis, pour moi, dans mon art, je veux dire juste de pouvoir continuer ce que je fais maintenant. Honnêtement, J'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu avoir un magasin, avoir un espace où que je peux partager ce que je fais avec les gens au nord, avec un genre de studio où que je peux donner des cours. Quand j'étais à Coudjouac, je donnais beaucoup de cours de perlage au centre jeunesse. J'ai donné un cours pour Maquivé. On a rassemblé des gens de toutes les communautés pour leur donner des techniques de perlage. Fait que de pouvoir continuer à faire ce que je fais, mais de pouvoir aider les autres aussi.
Sans réserve, le balado est une production d'Animikissi Digital Production en collaboration avec les productions Mustang. À la réalisation, Sandy Pintheus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.